Bonsoir, moi j'étais là la semaine dernière, donc Marianne Thivan, je me présente. Marianne Thivan, j'étais là la semaine dernière avec Béatrice Dubel pour inaugurer un petit peu la première séance de ces quatre séances sur la question des engagements de Lyonnais auprès des Algériens en guerre, donc à Lyon entre 1954 et 1962. Et donc la semaine dernière, vous avez vu le film Elvire qui introduisait la question et qui formait en quelque sorte la première étape de notre travail collectif, puisque c'est Béatrice Dubel qui, dans un premier temps, a commencé à travailler donc sur des entretiens autour d'Albert Cerceron. Et donc elle en a fait une figure centrale dans Elvire, et c'est à partir de ce travail sur Elvire qu'elle a continué, grâce aux pistes qui étaient données bien sûr par les témoins, elle a continué son travail donc de recherche des témoins et donc d'entretien, et c'est à partir de ce matériau, en gros une quarantaine d'entretiens, qu'un petit collectif d'historiens s'est monté donc pour exploiter ces entretiens. Donc collectif d'historiens dont je fais partie, et Émilie Longueville qui est ici avec moi également, que je vais également présenter. Donc en fait on a travaillé sur ce fonds d'archives orales qui est très conséquent, comme c'est d'actualité, je le dis, ce fonds d'archives orales va être déposé aux archives municipales de Lyon. Prochainement, on va discuter des conditions d'accès à ces archives inédites, mais ça va devenir un fonds consultable sous condition, mais consultable. À partir d'une recherche croisée entre ce fonds d'archives orales, les archives écrites, donc on avait discuté la dernière fois de la préfecture, autour notamment du contrôle des activités des Algériens à Lyon pendant la guerre d'Algérie, également à partir des archives privées qui ont été données par un certain nombre de témoins. Donc on a reconstitué ces récits d'engagement donc de Lyonnais auprès des Algériens en guerre, et donc on a travaillé sur la question des solidarités. Béatrice Dubel parlait la semaine dernière des amitiés franco-algériennes en temps de guerre, donc qui n'allaient pas du tout de soi, et donc on a travaillé sur la question de ces solidarités. Et de la question des solidarités, bien sûr, ce qui nous intéressait, c'était comment d'une solidarité entre humains, entre personnes, on arrive à s'engager politiquement et éventuellement à intégrer des réseaux clandestins de soutien aux Algériens en guerre. On va vous présenter, donc c'est la deuxième étape, mais c'est le premier, on va dire, volet thématique sur la question de ces engagements, qui est autour de l'action sociale et comment, à partir d'une action sur le terrain, on va dire, de soutien social, on va y venir, aux Algériens, comment cette action sociale peut mener à un engagement beaucoup plus politique. Alors, très rapidement, je présente Émilie. Donc, Émilie Longueville est doctorante, bientôt docteur en histoire contemporaine, donc à l'Université de Lyon 2. Et Émilie travaille sur le logement, la question du logement des Algériens à Lyon des années 50 aux années 70, à la fin des années 70. Et en fait, elle fait une comparaison entre les politiques de logement à Lyon, donc pour les Algériens, avec les politiques de logement à Berlin vis-à-vis des Turcs. Donc elle fait une comparaison Lyon-Berlin sur la question du logement des immigrés des années 50 aux années 70. Donc Émilie, elle connaît bien le terrain lyonnais, elle connaît bien le terrain d'immigration, donc c'est un peu ce qui l'a fait entrer dans ce projet de récit d'engagement. Et donc à partir d'un travail sur les solidarités autour du logement et de l'accès au logement, qui est un premier problème qui se pose aux immigrés algériens. Donc elle a travaillé sur cette question des solidarités et des engagements. Moi-même, donc, qui travaille pas du tout non plus sur la question de la guerre d'Algérie, je croise la question de l'histoire de l'immigration à travers l'histoire d'enseignement. Je suis spécialiste d'histoire d'enseignement et je m'intéresse à la question du rôle de l'école dans la production, dans la reproduction des inégalités sociales, sexuées, ethniques, nationales, à l'école. Et donc, je m'intéresse beaucoup à la question, en fait, du genre des formations. Je travaille beaucoup sur l'enseignement des filles. Et là, ce qui m'intéressait, c'était de travailler sur la question de la scolarisation des enfants migrants dans ces années 50-60 et sur la question de l'alphabétisation des adultes. Et donc, c'est via cette question de l'alphabétisation des adultes que j'ai rencontré ces questions de solidarité franco-algérienne que je vais développer également. Je vais arrêter de parler. Donc en fait, ce qu'on a prévu, c'est une intervention à deux voix. Donc dans un premier temps, Émilie Elonville va présenter son travail autour de la question du logement et des solidarités autour de cette question, donc la Lyon pendant la guerre d'Algérie. Et moi ensuite, je prendrai la parole sur la question donc, de ces mêmes solidarités, mais déclinées autour du projet de l'alphabétisation des adultes. Hein, il y a deux actions de solidarité différentes qui découlent sur des types d'engagements, sur des engagements similaires ou différents, on va y venir. Donc, peut-être qu'après l'intervention d'Émilie, vous aurez peut-être des questions très factuelles. Je prendrai ensuite la parole et ensuite on lancera le débat plus général sur ces questions.
Bonjour, vous m'entendez ou... C'est bon, d'accord. Alors, avant de commencer mon intervention, je voudrais juste vous citer un petit extrait du témoignage livré par Monsieur et Madame Courbière à Béatrice Dubel. Ils évoquent la manière dont ils sont entrés en contact avec la population algérienne. Madame Courbière. Mais le contact avec les Algériens, il s'était fait, c'était surtout toi. Quand il y a eu le comité pour soutenir ceux qui étaient à la gare de la Croix-Rousse, l'ancienne gare de la Croix-Rousse, comment ça s'appelait ? Monsieur Courbière. Il y avait une ancienne gare de la Croix-Rousse, la rue Hénon. Il y avait une grande baraque qui était utilisée pour reloger les Algériens célibataires qui vivaient là. Ils étaient, je ne sais pas combien, 150. On s'en est occupé. Ils avaient point de chauffage, rien du tout, c'était en plein hiver. Madame Courbière. C'était avant la guerre ? Monsieur Courbière. Non, non, c'était pendant la guerre. On s'en est occupé, et de ces relations, il y en a un ou deux qui paraissaient un peu diriger les autres. Ils sont venus, on les a reçus à table. On a appris, après, que c'était des responsables du FLN. Donc, dès l'entre-deux-guerres, environ 2000 Algériens vivent dans l'agglomération lyonnaise. Après un ralentissement pendant la Seconde Guerre mondiale, les flux migratoires repartent à la fin des années 40. Selon les statistiques des services de la préfecture du Rhône, qui ne donne qu'une tendance et en aucun cas une vérité, en 1948, entre 5000 et 6000 travailleurs algériens, ou si je respecte le statut de l'époque, les Français musulmans d'Algérie, sont recensés dans le département du Rhône. En 1951, ils sont entre 7000 et 8000, en 1957, environ 15000. Les années suivantes, leur nombre baisse et se stabilise en 1960 autour de 13000 travailleurs. Ces hommes, parce qu'on parle ici d'une migration de travailleurs hommes, sont principalement employés dans les secteurs des travaux publics, du bâtiment, de la métallurgie, de l'automobile avec l'usine Berliet et dans les industries chimiques et textiles. À côté de cette migration de travailleurs, on trouve également une immigration familiale qui s'intensifie avec le déclenchement de la guerre d'Algérie. Jusqu'à l'indépendance, environ 1000 femmes et 2000 enfants vivraient dans l'agglomération lyonnaise. Tout comme dans l'ensemble de la métropole, l'agglomération est confrontée à une grave crise du logement, qui est dénoncée par l'abbé Pierre dans son appel de l'hiver 54. Et nouvelle arrivée sur le territoire, le logement est selon la sociologue de l'époque, André Michel, l'obsession de l'immigré algérien qui débarque en France. Et cela va durer au-delà de l'indépendance, bien sûr. Dès le début des années 50, des initiatives se mettent en place dans l'agglomération pour tenter d'aider les migrants algériens dans leur accès à un hébergement et à un logement. Elles s'appuient sur des structures associatives ou sur des engagements individuels spontanés, nés d'une impossibilité de rester à ne rien faire. Alors mon objectif aujourd'hui, c'est tout d'abord de vous montrer l'évolution, à partir des années 50 jusqu'à la période de la guerre d'Algérie, des actions sociales faites autour du logement des Algériens, en posant systématiquement un double regard. D'une part, un regard sur des structures associatives d'aide au logement pour les Algériens, de l'autre, un regard sur des engagements individuels de Français pour aider des Algériens. Je vais procéder en trois temps. Je reviendrai au début des années 50 sur les dispositifs mis en place dans l'agglomération pour loger les célibataires. Je vous parlerai ensuite des réponses données au logement des familles au milieu des années 50, moment où beaucoup fuient le conflit algérien. Enfin, je m'arrêterai sur le tournant des années 57-58. Moment où le conflit algérien s'intensifie dans l'agglomération et où les politiques de contrôle de la population algérienne se durcissent. Le but est de faire apparaître la mise en place progressive dans les structures d'action sociale d'un contrôle renforcé de la population algérienne et dans le même temps de voir comment certains Français actifs dans l'action sociale auprès des Algériens, comme les époux Courbière, décident de s'engager auprès d'eux dans la lutte pour l'indépendance. Dès la fin des années 40, des structures administratives et associatives sont mises en place pour tenter de donner des solutions aux problèmes du logement des migrants algériens. Elles se focalisent essentiellement pour répondre aux besoins des célibataires, et j'ai retenu trois exemples. Dès la fin des années 40, un centre d'hébergement pour les travailleurs nord-africains est créé dans l'ancienne caserne militaire de la Part-Dieu, aussi boulevard Eugène Desruelles. C'est là où se trouve l'actuel centre commercial. Le centre a officiellement une capacité de 1600 places. Le 6 rue Eugène Desruelles, c'est une adresse que les Algériens s'échangent à leur arrivée en France, et c'est pourquoi l'effectif du centre a pu atteindre 2000 personnes. L'organisation est rudimentaire, 19 dortoirs de 150 à 80 lits. Les hébergés connaissent la promiscuité, l'absence d'intimité, le bruit, autant d'éléments qui rendent la cohabitation difficile. Le centre est géré par une association qui s'appelle l'Association lyonnaise pour l'hébergement des travailleurs nord-africains. Et cette association a ceci d'intéressant qu'elle est construite autour d'une gestion paritaire entre des représentants du préfet, du maire du Lyon, des organisations patronales, des organisations syndicales et des représentants des Algériens. En 1951, une autre association voit le jour, la Maison de l'Afrique du Nord. À l'origine de sa création, on trouve deux personnalités, Madame Marthe Massenet, femme du préfet du Rhône de l'époque, Michel Massenet, et Monsieur Pierre Lombard, président-directeur général de l'entreprise Rodia Ceta. L'association développe une action sociale axée à la fois sur une offre d'assistance à la population algérienne et sur une offre d'hébergement des travailleurs célibataires et, dans une moindre mesure, du logement des familles. La Maison de l'Afrique du Nord est, dès sa création, avec la présence de la femme du préfet dans son conseil d'administration, une structure qui est très proche des pouvoirs publics. Enfin, en 1952, il est créé ce qu'on appelle un service des affaires musulmanes à la préfecture du Rhône. Il est dirigé par un conseiller technique qui s'appelle Georges Martin, qui est un ancien administrateur des services civils de l'Algérie. Sous l'ordre du préfet, Michel Massenet, il est en charge d'organiser l'assistance morale, matérielle et sociale des populations nord-africaines dans les domaines que la formation professionnelle, l'alphabétisation et le logement. Au cours des années 1950, ces différentes structures qui ont un lien plus ou moins direct avec les pouvoirs publics ne produisent pas des réponses suffisantes pour répondre à l'ensemble des besoins de logement provoqués par les nouvelles arrivées de migrants algériens. Et beaucoup de ces migrants se heurtent à la difficulté de trouver un logement décent, à l'exemple de l'expérience d'Hamid Garib. Alors, M. Hamid Garib arrive à Lyon en 1954, année du déclenchement de la guerre d'Algérie. Son premier logement, il l'obtient dans un hôtel meublé. Le gérant de ce garni accepte de lui louer une chambre, ou plutôt ce que Hamid Garib appelle un débarras d'un mètre sur deux. À la fin de chaque mois, Hamid est obligé de quitter sa chambre. Pourquoi ? Parce que cela permet à son gérant de ne pas lui donner une quittance de loyer. Il peut ainsi pratiquer les tarifs qu'il veut et échapper aux amendes de la police des garnis. Les marchands de sommeil, comme le gérant de Hamid, sont nombreux à Lyon à proposer des chambres en garnis et à profiter de la rareté des logements pour demander à leurs locataires des loyers exorbitants. En 1955, sur les 13 000 travailleurs algériens qui se logent par leurs propres moyens, c'est-à-dire en dehors des centres d'hébergement ou des foyers d'hébergement, environ 65% d'entre eux vivent dans des hôtels meublés ou en location privée qui sont jugés acceptables et non pas satisfaisants. 35% vivent dans des logements jugés clairement impropres à l'habitation. La situation est la même pour les familles. Une grande part d'entre elles est logée dans des logements dits indignes. Elles se regroupent dans des pièces de 4 à 5 personnes et vivent dans des logements anciens vétustes, comme ceux de la montée de la Grande Côte à la Croix-Rousse ou ceux de la rue Paul-Bert dans le 3e arrondissement. Dès 1953, avant le début de la guerre, un rapport de la Maison de l'Afrique du Nord dénonce les difficultés que rencontrent les familles à trouver un logement. Lors d'une réunion de 1955, Madame Massenet évoque un dossier de la peur à propos du logement des familles dont les arrivées augmentent avec le développement de la guerre d'Algérie. Elle raconte que les familles, dès leur arrivée en métropole, se heurtent aux difficultés de logement avec des entassements dans des pièces à dimensions réduites. Face à cette situation, les pouvoirs publics et les associations décident de mettre en place de nouveaux dispositifs. En 1957, la Maison de l'Afrique du Nord crée à Bouenvelin une première cité de transit avec 6 chalets de dépannage en bois sur un terrain loué au département du Rhône sur la route de Crémieux à Vaux-en-Velin. Une autre association lyonnaise prend également en charge des migrants algériens dans le cadre des cités de transit, c'est le foyer Notre-Dame des Sans-Abri, qui est l'association qui devient par la suite la plus grande gestionnaire de cités de transit. Mais malgré ces efforts, tout comme pour les célibataires, l'offre de logement prévue pour les familles algériennes est insuffisante et beaucoup se logent comme elles peuvent, dans des garnis ou des logements privés, dans certains cas vétustes. Et lorsqu'Adriag arrive et rejoint son mari, les époux s'installent dans leur premier logement. Et ce premier logement, il est situé dans un hôtel de passe. Il loue à un prix exorbitant une petite chambre sombre au dernier étage. Face à ce mal logement, face à cette précarité de logement, certains Français décident, à travers un engagement individuel, d'aider la population algérienne. Et des formes de solidarité se mettent en place entre Français et Algériens, autour d'actions sociales qui, si elles ne sont pas encore des actions de soutien à la lutte pour l'indépendance, marquent cependant une première étape dans l'engagement de certains Français. À son arrivée en France, Hamid Garib a rencontré l'abbé Carteron, qui héberge chez lui, au 28 rue Villeroy, des Algériens qui ne trouvent pas à se loger. Ils sont entre 4 et 5 à partager son petit appartement près de la place du Pont. Pour les familles, l'abbé Carteron essaie de trouver des solutions. Par exemple, grâce à son réseau, Hamid et Adria Garib sont accueillis par une famille française, les Boursiers, qui, je les cite, veulent faire quelque chose pour les Algériens. Et dans leur petite villa située dans la cité Taz à Vaux-en-Velin, la famille Boursier se sert et donne une chambre à la famille Garib. Pendant un an, les Garib restent chez les Boursiers et deviennent des membres à part entière de leur famille. En 1956, la famille Garib déménage dans un logement à Villeurbanne. Dans leur nouveau logement, une pièce cuisine à la croix luisée, ils accueillent chez eux d'autres Algériens et élargissent la première chaîne de solidarité. Ils continuent de recevoir une aide de leurs amis français, comme par exemple une machine à laver offerte par Marie-Thérèse Paulette, et le réseau de solidarité se poursuit. Avec cette action autour des époux Garib, on voit un exemple d'un premier niveau de solidarité entre Français et Algériens, créé par le réseau de l'abbé Carteron. Cette solidarité se construit autour de la notion d'aide sociale. À partir de 1957, le conflit algérien prend un nouveau tournant. Il s'intensifie en métropole. Et Lyon devient le théâtre d'affrontements violents entre le mouvement national algérien MNA et le Front de Libération Nationale FLN. En réaction à la montée de la violence, les pouvoirs publics renforcent les dispositifs de contrôle de la population algérienne dans l'agglomération. En 1958, Georges Martin, qui est le conseiller technique du service des affaires musulmanes de la préfecture, reçoit une consigne de transmettre au ministère de l'Intérieur toutes les informations susceptibles d'être importantes sur les affiliations des Algériens au mouvement indépendantiste MNA ou FLN, qui pourraient menacer la sécurité intérieure. Et les associations sont également appelées à coopérer avec les services de police dans la transmission des informations, dans la mesure où cela n'entrave pas leur action sociale. En 1958, l'association de la Maison de l'Afrique du Nord accueille un nouveau directeur, ancien militaire en Afrique du Nord, le colonel Lepage, fidèle de la politique du général de Gaulle. À partir de 1959, il met en place ce qu'on appelle une action psychologique en faveur de l'Algérie française qui vise à influencer, à travers les actions sociales, les populations algériennes prises en charge par l'association. Lepage insiste sur la nécessité, je cite, d'affirmer, aux yeux des Français musulmans d'Algérie, l'identité nationale. Il s'aligne sur les directives du gouvernement français et oriente les politiques internes de l'association dans ce sens. Cette action psychologique est menée, par exemple, dans le cadre des actions socio-éducatives mises en place dans les foyers gérés par l'association. Dans cette stratégie de renforcement du contrôle de la population algérienne, des actions sont menées pour renforcer la surveillance des lieux d'habitation. Dès 1958, le centre de la Part-Dieu est identifié par les autorités comme un centre fortement politisé et comme un fief du FLN. Perçu comme une menace pour la sécurité intérieure, il doit être détruit le plus rapidement possible. Et cette tâche est confiée aux responsables d'une nouvelle structure qui s'appelle les sections administratives techniques, les SAT. Elles sont placées sous l'autorité et la direction de Georges Martin. Et les SAT sont des services civils mais animés par un personnel militaire, à savoir des officiers des affaires algériennes. Les responsables de la SAT Lyon-Nord sont chargés de procéder au relogement des hommes du centre de la Part-Dieu dans des unités de vie plus petites et donc jugées plus contrôlables, comme les foyers Sonacotra. Dans les faits, l'évacuation de tous les hébergés ne sera effective qu'en 1965. Parallèlement, à partir de 1958, des opérations de rénovation urbaine sont lancées à Lyon. Elles permettent aux services de la préfecture d'évacuer les zones où vit une importante population algérienne. C'est le cas du bidonville des Bouères à Villeurbanne. En 1960, le bidonville compte 144 baraques qui abritent 380 personnes. Et au Bouère, plus de 80% des habitants sont d'origine algérienne. Les opérations d'expulsion des habitants menées par les services de police permettent d'effectuer un recensement et un contrôle des habitants et, le cas échéant, des arrestations. Une grande partie d'entre elles sont relogées dans les nouvelles cités de transit gérées par la Maison de l'Afrique du Nord et le foyer Notre-Dame des Sans-Abri. Mais les dispositifs de surveillance mis en place par les pouvoirs publics ont leurs limites. Certaines associations d'aide sociale ne coopèrent pas facilement avec les services de la préfecture. Par exemple, les assistantes sociales d'un service qui s'appelle le Service Social Familial Nord-Africain refusent de transmettre des informations sur les familles algériennes qu'elles suivent aux services de la préfecture. D'autres travailleurs sociaux apportent un soutien clandestin aux Algériens en guerre. C'est ce que nous allons voir à travers l'exemple de Madame Courbière. En 1960, au bidonville des Bouères, on croise des hommes célibataires, mais surtout des enfants et des femmes. Les femmes du bidonville des Bouères répondent aux femmes de la montée de la Croix-Rousse. Dans ces années 57-58, dans ces moments où les dispositifs policiers sont renforcés, beaucoup de femmes algériennes restent seules dans les zones d'habitation. Les hommes, eux, se cachent ou sont arrêtés. Une partie des femmes algériennes qui vivent dans des logements et les garnis insalubres de la montée de la Croix-Rousse reçoivent l'aide des travailleuses familiales et notamment des travailleuses de la Confédération syndicale des familles. Les travailleuses familiales ont pour mission d'agir au plus près de la vie quotidienne des femmes algériennes, dont beaucoup sont seules avec leurs enfants. Ces interventions sociales rentrent dans un dispositif social financé en grande partie par les caisses primaires d'assurance maladie. Ce statut officiel donne aux travailleuses familiales une liberté d'action et la garantie de ne pas être inquiétées par les services de police. Ceux-ci n'envisagent pas de lien possible entre cette action sociale et un soutien à la cause algérienne. Et pourtant, Madame Courbière, co-responsable du service des travailleuses familiales de la Confédération syndicale des familles, met progressivement en place un réseau de solidarité avec les Algériens. Elle fait de son service une sorte d'interface, une sorte de courroie de transmission entre les femmes algériennes et les membres du FLN. Lorsqu'une famille algérienne a des problèmes d'argent, Madame Courbière avertit l'abbé Carteron. Celui-ci transmet l'information à des membres du mouvement qui peuvent ainsi agir pour aider la famille dans le besoin. Pour les agents des services de police, ces travailleuses sociales ne sont pas des éléments à surveiller. Il leur est impossible de soupçonner des connexions possibles entre elles, des femmes françaises et des membres du FLN. Cette chaîne de solidarité dépasse le simple cadre de l'aide sociale. Elle est un premier pas, un premier exemple des formes de solidarité que des Français apportent à la cause algérienne. Donc à travers ces exemples liés autour de la question du logement, j'ai essayé de vous montrer l'évolution des pratiques de certaines actions sociales avec le développement de la guerre d'Algérie. Si certaines actions se développent en lien avec les directives données par les pouvoirs publics, comme l'action psychologique du colonel Lepage à la Maison de l'Afrique du Nord, l'exemple de l'action de la co-directrice de la Confédération syndicale des familles démontre que des Français choisissent de les contourner et d'apporter un premier soutien à la cause algérienne. Cela peut prendre la forme d'une démarche individuelle qui n'implique pas toute une structure, mais cela peut également engager tous les membres d'une structure. C'est ce que va vous expliquer Marianne avec les membres de l'association de l'ESANA. Je vous remercie.
Peut-être s'il y a des questions factuelles avant que je continue.
La Confédération syndicale des familles. Oui, ils sont libres. Il y a la libre. Oui, ils sont libres. Jusqu'en 62, il y a la liberté de circulation. Ouais, à partir. Ouais. Je pense que ça dépend de quel Français ou de quel rapport ils vont entretenir avec. Alors ça il faudrait faire.
Les immigrés.
Les immigrés
l'accueil qui a pu être fait également en portugais aux Espagnols dans ces années, au début des années 50, n'était pas très accueillant justement. Oui, mais il y a un ensemble, hein, c'est une population migratoire qui vient pour travailler. Les Français d'Algérie sont encore autre chose, hein. Ce sont des musulmans, à rigueur. Mais ce n'est pas des Français d'Algérie, non, ce sont des immigrés.
Ce sont des immigrés coloniaux, et il y a aussi quand même toute cette notion de coloniaux.
Mais des immigrés.
La liberté de circulation, je vais répondre parce que je n'ai pas complètement répondu, mais la liberté de circulation des Algériens en métropole, c'est 1947. L'autorisation de la liberté de circulation. Et il y a une restriction qui est apportée en 1956 parce que les autorités veulent limiter l'arrivée des Français musulmans d'Algérie en métropole. Donc il y a une restriction qui est imposée par le ministère de l'Intérieur en 1956. Je précise. Les familles, elles arrivent progressivement. Les familles, elles ont toujours été là. Dans les années 30, vous avez déjà des Algériens avec aussi des familles. Mais par rapport à la masse, on va dire, de la migration, les hommes seuls sont majoritaires. Et souvent, on a tendance à oublier les familles. Alors, les familles sont là. C'est pour ça que j'ai insisté en disant travailleurs, hommes et familles, parce qu'elles sont environ 2000, donc c'est pas beaucoup par rapport aux 13 000 travailleurs, mais elles sont là. Et elles arrivent progressivement. Mais vous avez effectivement un pic au début du conflit algérien, 1954-1955, où là, l'agglomération voit vraiment arriver un grand flot de familles. Beaucoup plus significativement que dans les années 30 ou que dans le début des années, que dans la fin des années 40.
La restriction de 1956,
est-ce que c'est sous forme de quota ou autrement? Non, ils jouent sur les titres de séjour, c'est-à-dire que la difficulté, c'est d'obtenir les papiers. Donc, ils vont jouer sur l'obligation pour les Algériens de fournir des pièces d'état civil. Voilà, donc il faut fournir un certain nombre de pièces pour pouvoir partir. Et donc, forcément, ça limite. C'est pas sur des quotas, les quotas sont. Alors, il y a des femmes qui travaillent. Donc, j'ai pas de statistiques, malheureusement, parce que là. Dans les statistiques de la préfecture, je ne vais pas les trouver listées. Simplement, quand je regarde mes sources, je peux avoir, par exemple, un dossier social où je vais avoir monsieur et madame X, et madame X travaille, soit comme... j'ai une femme qui travaille, par exemple, dans les entreprises textiles, par exemple. Mais je ne peux pas comptabiliser parce que c'est au détour des sources que je peux trouver. Mais il y en a qui travaillent, c'est sûr et certain. Après, combien, je ne sais pas.
Juste pour compléter, on connaît un petit peu la question avec Émilie. C'est vrai que la question du travail des femmes immigrées, c'est une question d'un point de vue historique, qui est très neuve. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, on a une immigration, on a une représentation de l'immigration, et quelles que soient les flux migratoires, dès la fin du 19e siècle, comme une immigration de travail masculine. Alors qu'en cherchant bien, on découvre aujourd'hui, mais les travaux sont très très récents, hein, ça commence tout juste, que derrière cette immigration masculine, il y a une immigration féminine, et pas uniquement des épouses et des enfants qui suivent le chef de famille. Hein, pour l'immigration italienne, on a beaucoup d'Italiennes, de jeunes Italiennes qui viennent travailler en France, les couvents, l'usine de l'Isère, etc. Et c'est aussi le cas pour les familles algériennes. Hein, moi, je l'ai vu par rapport justement à l'ESANA, où on commence aussi à discuter de la formation professionnelle des migrantes algériennes, donc avec des femmes qui souhaitent être alphabétisées pour pouvoir obtenir un poste de... Donc il y a quand même... c'est vrai, les femmes en même temps que j'ai... Enfin, sur lesquelles j'ai travaillé et avec lesquelles les femmes travaillaient sont des femmes qui étaient mères de familles très nombreuses. Effectivement, ceci ne travaille pas, mais c'est pas forcément la majorité.
Juste pour compléter sur les femmes, il y a une association qui s'appelle le Service Social Familial Nord-Africain, que j'ai un peu évoqué, qui est là et spécialisée pour l'accompagnement des femmes algériennes à Lyon, qui existe toujours, hein, qui s'appelle la femme maintenant, enfin, cette association. Cette association existe parce qu'ils ont repéré qu'il y avait des femmes qu'elles voulaient être accompagnées et voire accompagnées jusqu'au travail. Donc, voilà.
Eh bien, je prends la suite. Donc, Émilie, donc moi, je vais vous présenter un petit peu l'activité et l'action de cette association ESANA, Études Sociales Services d'Accueil nord-africain, Éthique sociale service d'accueil nord-africain, qui est une association qui est fondée en 1948 par les catholiques sociaux de la chronique sociale. L'association, bon, elle est officiellement déclarée en préfecture en janvier 48. Et le but de l'association, donc au départ, hein, en 48, c'est d'aider les travailleurs nord-africains, j'utilise la terminologie de l'époque, hein, et leurs familles. Donc c'est une aide qui n'est pas forcément spécifique dès le départ, mais très vite, les SANA s'orientent vers une aide en direction de l'alphabétisation. Ces cours de l'ESANA, ces cours d'alphabétisation, ont fonctionné dans l'agglomération lyonnaise de 48 jusqu'au début des années 70. L'ESANA, au lendemain de la guerre, est renommée ACFAL. Donc, peut-être que certaines parmi vous connaissent mieux l'ACFAL, l'association de coopération franco-algérienne. Alors, l'ESANA, j'allais dire, c'est une association parmi d'autres qui fait partie d'un ensemble important d'œuvres privées financées par les pouvoirs publics pour travailler auprès des populations migrantes après 1945 et plus particulièrement à partir de 1947, donc auprès des Français musulmans de métropole, donc qui sont devenus des citoyens de l'Union française. Cette population, c'est vraiment la cible, Émilie l'a expliqué, donc d'une politique publique qui est menée par l'État et qui vise l'adaptation à la vie en métropole et l'assimilation à l'identité française. Hein, l'objectif de ces politiques, c'est bien des politiques d'assimilation à l'identité française. Cette politique, elle se décline en deux axes principaux, donc le logement et l'alphabétisation. Et en fait, cette politique, elle repose pour une bonne part, pour une très très large part, sur l'activité des associations qui sont donc financées par l'argent public. Alors, donc l'ESANA fait partie donc de cette constellation d'associations financées par l'État pour venir en aide via le logement ou l'alphabétisation donc aux populations migrantes et tout particulièrement aux Français musulmans de métropole. Mais l'ESANA, c'est pas une association comme les autres. En fait, l'ESANA, elle est exclue des subventions publiques dès le début de la guerre, mais qui n'est pas forcément perçue comme telle en 54. Mais dès 54, l'association est exclue des subventions publiques pour le motif, je cite, qu'elle faciliterait les agissements d'éléments subversifs contre l'œuvre de la France. Donc ça, je cite donc Georges Martin, hein, donc l'administrateur des services civils de l'Algérie, qui a l'ESANA un petit peu dans le collimateur et donc qui défend l'arrêt des subventions à l'ESANA. Si on regarde les rapports des renseignements généraux et donc tous les rapports qu'on peut trouver à la préfecture, en 63, c'est une association qui est considérée comme ayant collaboré avec le FLN. En fait, l'ESANA, c'est vraiment une association qui se situe en marge de ces politiques publiques d'assimilation sont financés par elle au départ, mais très vite s'en détachent. Alors, pour deux raisons. D'une part, ces activités sont guidées quand même par un projet émancipateur qui est très éloigné des objectifs de contrôle des populations nord-africaines, qui sont donc assumés par les pouvoirs publics à ce moment-là. Et puis, d'autre part, c'est une association qui joue beaucoup, et c'est ce qui m'a intéressée, de l'ambiguïté justement de ces solidarités franco-algériennes hein, qu'elle promeut, naviguant donc pour ses membres d'une action sociale et humanitaire qui est tout à fait légale et des engagements politiques suspects dans le contexte de la guerre d'indépendance algérienne. Et donc c'est vraiment à l'aune de ces deux particularités que je vais retracer l'histoire de cette association. Juste deux mots quand même sur ma méthodologie et comment j'ai travaillé. Donc en fait, j'avais beaucoup de sources sur l'association à la préfecture, comme c'est une association suspecte, mais elle est contrôlée, elle est surveillée, on a quand même pas mal de rapports, des renseignements généraux sur cette association. Et donc j'avais ce regard par le haut, donc de policier, hein, et de la préfecture, et donc j'ai confronté ce regard à un regard par le bas, à partir en fait de l'association, des membres de l'association, dont certains ont été interviewés par Béatrice Dubel, et à partir d'archives qui ont été déposées donc par Jean Carignan, des archives assez importantes donc de l'association, qui m'ont permis vraiment d'avoir un autre regard sur l'association et vraiment de confronter archives officielles, archives privées, témoignages oraux. Donc ça a été un travail quand même assez intéressant du fait de la richesse des archives disponibles. Alors juste un mot quand même sur les SANA. Qu'est-ce qu'elle fait avant 54, avant la guerre? C'est une association qu'on connaît assez mal pour les débuts, de 48 à 51, 52. On commence à la connaître à partir de 51, 52, au moment où Henri Lemann, qui est l'abbé de la paroisse du Sacré-Cœur et qui est spécialement chargé comme carteron donc par le cardinal Gérier de l'accueil des Nord-Africains à Lyon, entre dans l'association. Pour Henri Lemann, cet engagement est tout à fait naturel. Ça découle de sa volonté d'assurer une présence gratuite auprès, je le cite, de gens non accueillis en France. Donc très vite, en fait, Lemann gère l'association, recrute les bénévoles et les forme à l'action sociale. C'est toute une action de formation des moniteurs d'alphabétisation. Et donc, bien évidemment, il travaille avec Albert Carteron, donc qui le rejoint en 1950, lui aussi missionné par le cardinal Gérier. Alors, Carteron n'apparaît pas vraiment dans les archives de l'ESANA, mais il est très actif dans l'association. Donc, c'est lui qui, avec Lemann, recrute les moniteurs. Comment il recrute les moniteurs? Il va de paroisse en paroisse. Essaye donc de recruter des personnes pour donner ses cours. Et puis c'est vraiment avec lui, avec Carteron, que Lemann imprime à l'association cette démarche humanitaire puis politique qui est quand même très éloignée des politiques publiques d'assimilation qui sont alors pratiquées. Alors, qu'est-ce que les SANA à ce moment-là? Donc c'est un service d'accueil des populations nord-africaines, donc des travailleurs migrants tout d'abord, puisque l'essentiel quand même de l'activité de l'association, ce sont les cours d'alphabétisation, avec un objectif de promotion sociale et professionnelle. Donc vous avez quelques cours du soir qui fonctionnent au début des années 50. En 53, on a 4 cours du soir, 4 sites différents, plusieurs classes, plusieurs niveaux, et le cœur, on va dire, névralgique de l'association, c'est le 17 Clos Suifon. Donc le 17 Clos Suifon, c'est un local paroissial qui est situé en plein cœur du Lyon algérien, donc vers la Guillotière. Donc c'est un quartier très cosmopolite, avec beaucoup de garnis algériens, de garnis kabyles plus précisément. Le cours du Clos Suifon accueille en moyenne une 60aine d'élèves qui sont encadrés par une 15aine de bénévoles. Donc c'est des cours avec des effectifs très fluctuants et avec beaucoup de moniteurs qui se partagent le travail. Donc des cours pour les travailleurs migrants, des cours de rattrapage scolaire pour les adolescents. Donc là on est plus vers une action en direction des familles, parce que les adolescents posent problème, parce qu'ils sont trop vieux pour l'école primaire, ils sont trop peu instruits pour aller au collège ou pour suivre une formation professionnelle. Donc il y a un vrai problème pour ces adolescents, et je précise bien ces adolescents, on ne parle pas du tout des adolescentes qui elles sont reléguées bien souvent dans le bidonville ou dans la cité. Et donc on va s'occuper de ces adolescents, des activités de loisirs, beaucoup de sport. On s'occupe aussi des femmes, pas encore de l'alphabétisation, mais on monte des foyers de femmes avec des goûters pour qu'elles viennent avec leurs enfants, et en fait des lieux en fait où on discute. Des actions de parrainage, beaucoup d'actions de parrainage, donc des familles françaises qui parrainent des familles algériennes qui vivent dans les bidonvilles, au Buère, ou soit dans les cités de transit. Il y a une action aussi de visite aux détenus des prisons lyonnaises, visite aux détenus de la prison Saint-Paul. Donc il y a une personne de l'ESANA, c'est une activité qui va prendre un peu de l'importance par la suite. Ce qui est intéressant, c'est que l'ESANA, ça se veut aussi un lieu de formation et d'information sur la situation des Nord-Africains en France. Et ça, c'est très important. Donc, il y a cette idée qu'on ne peut pas aider les Algériens si on ne les connaît pas. ce qui me paraît bien évidemment évident, mais c'est pas évident non plus de connaître cette population. Et donc il y a tout un travail vraiment d'information sur l'immigration, sur la condition du migrant, et puis aussi, j'allais dire, surtout sur l'Algérie. C'est-à-dire que l'abbé Lehmann et l'abbé Carteron partent en Algérie, font des voyages en Algérie, et on l'a entendu dans Elvire la semaine dernière. Carteron, il passe 2 ans en Algérie entre 50 et 52. Il est rejoint par l'abbé Lehmann pendant l'été 52. Donc en fait, ils connaissent bien la langue, ils parlent la langue, ils connaissent la culture, ils ont une approche assez fine de la situation politique et sociale de l'Algérie française. Ils apprennent, ils découvrent la misère dans laquelle vivent les Algériens en Algérie. Ils sont très choqués, hein, il y a des témoignages de Lehmann là-dessus. Au départ, en 52-53, on va dire que Carteron n'a pas encore véritablement compris le besoin d'indépendance des Algériens. En fait, en 52-53, on a des prêtres qui sont sur une ligne humanitaire, hein, vraiment d'action sociale, de soutien, d'allègement de la misère des Algériens. Et c'est par la suite, et c'est surtout avec Carteron, mais aussi avec Lehmann, que les deux abbés vont venir à une prise de conscience que les causes de la misère découlent du système colonial en lui-même. Mais si vous voyez, en 52-53, on n'est pas sur une ligne, on ne peut pas dire que les SANA, c'est un lieu de formation anticolonialiste. Ce n'est pas du tout le cas. Hein. C'est pas l'objectif. Donc toutes ces activités donc entrent dans le cadre de l'action sociale et éducative, donc qui est promue par les pouvoirs publics. Hein, il n'y a rien de contraire en fait aux politiques publiques. Et de fait, donc les SANA avant 54 vit pour une bonne part sur les subventions publiques. C'est 68% de ses recettes. Alors vous allez me dire, c'est pas des budgets non plus mirobolants, mais quand même, hein, c'est une association soutenue par les pouvoirs publics, donc par le gouvernement général de l'Algérie, par le ministère de la Population. Sur le terrain lyonnais, c'est pas la seule association qui s'occupe de l'alphabétisation des Nord-Africains. Vous avez les équipes sociales. Vous avez aussi un travail qui est fait avec le service social et familial nord-africain. Il y a aussi un travail qui est fait avec l'ESNA, études sociales. Études sociales nord-africaines, et donc dont la mission est aussi proche de l'ESANA dans cette action de formation des travailleurs sociaux aux problèmes liés à la migration algérienne. Donc en fait, l'ESANA est une association parmi d'autres associations qui travaillent sur ce terrain de l'alphabétisation et qui est financée par les pouvoirs publics. Comme d'autres associations, l'ESANA tient son indépendance. Elle n'a pas de lien particulier avec la Maison de l'Afrique du Nord, la MAN, hein, qui gère donc localement l'accueil des travailleurs nord-africains. Elle est même tenue un peu à distance, hein, parce que pour les membres de l'ESANA, c'est un petit peu la MAN est un peu une organisation de contrôle des Algériens. L'ESANA n'a pas d'élus locaux dans son conseil d'administration, ce qui est quand même à souligner. Et en fait, elle a des rapports avec les pouvoirs publics qui sont un peu ambigus. Et en fait, à partir de 1953, on commence à avoir une prise de distance de plus en plus forte par rapport au pouvoir public. Dès 53, donc l'ESANA est accusée de soutenir la cause nationaliste. 53, l'ESANA est exclue des subventions de l'État, donc sur décision du préfet du Rhône, donc Pierre Massenet. Depuis un an, l'association était dans le collimateur, hein, elle était l'objet de plusieurs rapports des renseignements généraux, donc qui la soupçonnait de bienveillance à l'égard du nationalisme algérien. On parle du nationalisme algérien, on ne précise pas plus hein, dans les rapports. Alors du coup, l'ESANA est jugée inefficace par rapport au but qu'elle se propose, hein, action d'alphabétisation, je cite, qui n'apporte aucune aide sérieuse aux Algériens, mais c'est quand même sur le versant intellectuel et moral que son action se concentre, enfin que l'attaque préfectorale se concentre le plus. Donc c'est Georges Martin, donc le conseiller technique aux affaires musulmanes,
qui se considère, si vous voulez, à Lyon, comme l'expert des populations algériennes, qui est quelqu'un qui est très attaché à l'Algérie coloniale. C'est lui qui va gérer le dossier Essana. Et donc, d'après lui, l'Essana est quand même beaucoup trop encline à défendre l'égalité des droits entre citoyens, entre Français et Français musulmans d'Algérie, citoyens également de l'Union française. Donc, si on lit les rapports donc, de Georges Martin, l'Essana organise des conférences hein, où il fait état des vexations journalières qui sont commises à l'encontre des jeunes musulmans français. Les prises de position de l'abbé Lehmann également sont sans équivoque. Quand, lors de grève, il va défendre des ouvriers nord-africains qui sont licenciés. L'association est également fondatrice, l'une des fondatrices du CLAR, le Comité Lyonnais d'Action contre le Racisme, donc qui milite pour l'égalité des droits entre ouvriers algériens et ouvriers français métropolitains. Sur un terrain encore plus politique, l'Essana s'affiche avec l'UDMA, l'Union démocratique, du manifeste algérien, qui est hébergé dans le même local où se tiennent les cours d'alphabétisation, donc au 17 rue Suifond, conférences pendant lesquelles donc l'Essana critique l'action de la France en Algérie. L'abbé Lehmann, quand il revient de son voyage en Algérie, il est au départ assez discret, mais de plus en plus il nourrit cette critique. Et donc, il est accusé de donner une fausse image de l'Algérie française, beaucoup de maladresse, beaucoup d'imprudence, beaucoup d'erreurs. Hein, je cite les rapports des renseignements généraux et de Georges Martin, donc, qui justifient pour la préfecture l'arrêt de toute subvention publique. Donc il y a toute une bataille quand même, le président de l'association essaye quand même de maintenir ses subventions, donc essaye de défendre la ligne de l'Essana sans succès. Donc en fait l'Essana reste une association légale, hein, déclarée en préfecture, mais c'est devenu une association suspecte qui n'est donc plus financée par l'argent public. Donc qu'est-ce qui se passe donc, à partir de 54? Alors le problème pour nous historiens, c'est que comme l'association n'est plus subventionnée à partir de 54, eh bien on n'a plus de rapport. Hein, quand vous obtenez de l'argent public, ben, forcément vous devez rendre des comptes. Donc du coup il n'y a plus vraiment de rapport, si ce n'est les rapports DRG, après 54, mais c'est surtout à partir de 58-60, j'allais dire, sont assez décevants, mais parce qu'on sait déjà quand même pas mal de choses sur les activités de l'association. Mais toujours est-il qu'entre 54 et 57, en fait, la vie de l'association m'a échappé pour une bonne part. Et en fait, c'est à partir de 57, au moment où le docteur Marc Mégard et l'industriel Jean Carlian, donc qui ont été interviewés par Béatrice Dubel, moi j'ai réinterviewé derrière l'industriel Jean Carlian, reprennent les rênes de l'association. Et donc à partir de là, on a déjà des archives orales, on a déjà un témoignage, puis du coup on a des archives écrites, puisque Jean Carlian nous a donné ses archives de l'Essana à partir de 57. Donc à partir de 57, on a plus d'éléments. Et donc c'est une nouvelle période qui s'ouvre pour l'Essana, j'allais dire où l'Essana se montre un peu faussement innocente, c'est-à-dire qu'elle est engagée tout à fait légalement comme par le passé sur le terrain social, mais elle est impliquée beaucoup plus directement dans la guerre que conduit désormais l'UFLN en métropole. Alors, Marc Mégard et Jean Carlian donc remettent sur pied l'Essana en 57. En fait, ces deux personnes sont déjà avec leurs épouses. J'insiste parce que leurs épouses vont jouer un rôle très, très important. Donc Jacqueline Mégard et Marguerite Carlian sont déjà engagées sur le terrain social depuis quelques années, donc sur le terrain de l'accueil des populations nord-africaines, guidées les uns et les autres par les pères Lehmann et Carteron. C'est au nom de leurs convictions religieuses protestantes hein, que le docteur en médecine Marc Mégard et son épouse Jacqueline donc, travaillent auprès des populations algériennes du bidonville de Gerland. Alors il faut voir que dans le bidonville de Gerland, justement en parlant du travail des femmes, justement Jacqueline Mégard évoque dans son entretien la situation très très difficile qui était faite aux femmes algériennes qui travaillaient justement dans les boyauderies de Gerland et donc qui travaillaient donc au contact quotidien du port hein, elle citait ce travail dégoûtant pour ces femmes. Donc les Mégards travaillent dans le bidonville et c'est là en fait, qu'ils rencontrent l'abbé Lehmann, rencontre qu'ils jugent déterminante, hein, ils le citent, hein, il est venu tout nous apprendre sur le contact avec les Algériens. Alors, si on regarde Jean Carlian, donc lui, c'est un fabricant de soieries, et donc lui, c'est par Carteron qu'il arrive à l'Essana, donc avec son épouse Marguerite Carlian, donc ils font la connaissance de Carteron à l'église Notre-Dame de Saint-Alban, dans le 8e arrondissement, à la fin d'une messe, hein, Carteron, comme tous les dimanches, hein, vient demander aux paroissiens, hein, ceux qui assistent à la messe, s'ils n'ont pas une pièce, une mansarde, un bout d'appartement à prêter à des Algériens, des travailleurs algériens. Donc ils lancent régulièrement des appels à l'aide. Donc les Carlians avaient un petit peu de place, ils ont une mansarde, donc ils vont héberger des Algériens sans les connaître. Hein. Donc en fait, ils rencontrent Carteron à plusieurs reprises, et donc c'est Carteron qui les initie en quelque sorte à la question politique du problème algérien. Donc il s'engage aux côtés de Carteron donc pour l'aide aux Algériens. Il y a quelque chose chez les Carlians Jean Carlian que j'ai interviewé à nouveau, et on voit chez cet homme donc qui est très âgé aujourd'hui, il a une colère un petit peu presque intacte par rapport à la situation qu'il décrit dans ses années 50, où il rencontre le problème algérien, et pour lui sa rencontre avec le problème algérien c'est vraiment: mais vous rendez compte, ces gens ne savaient même pas que la terre était ronde, et d'où la réflexion: mais qu'est-ce que les Français ont fichu depuis un siècle, plus d'un siècle de colonisation? On m'a appris à l'école que nous apportions les Lumières. Bon, ben, ce que je vois dans les populations algériennes que je rencontre, eh bien non, eux n'ont pas eu les Lumières. Donc vraiment, il y a une colère, hein, quelque chose. Et ça, je l'ai retrouvé dans d'autres témoignages, et notamment chez les Costecharère. Vraiment, qu'est-ce qu'on a fait, finalement, en Algérie? Donc il y a un déclic qui se fait au contact des Algériens, de se rendre compte qu'il y a un vrai problème, j'allais dire, d'alphabétisation, pas tant de connaissance du français, mais de culture générale et de compréhension du monde. Et donc pour Jean Carlian, c'est vraiment: quel que soit l'avenir d'Algérie, il faudra bien que cette Algérie reste française ou qu'elle devienne indépendante, il faudra bien qu'elle ait des gens instruits. Donc travaillons à cela. Donc vraiment chez Carlian, comme chez Mégard, c'est vraiment le premier ressort d'engagement, hein. C'est un ressort humanitaire qui est lié à une sensibilité croissante envers les conditions de vie de ces populations immigrées. Alors le second ressort est plus politique, naît des enseignements de Carteron et de Lehmann sur la question algérienne, et progressivement, on est déjà en 57, hein, sur la nécessité d'admettre l'indépendance. Donc les deux prêtres ont désormais une connaissance très fine de la situation politique et sociale en Algérie, Lehmann en 57 part à Grenoble pour fonder une association du même type que les Sana. Carteron est à Lyon, il est rue Villeroy, il est connu donc pour ses positions politiques. Hein, en 55, il a écrit « Algérie, retour du pays de la peur », hein, donc qui fait suite à son second voyage en Algérie, qui est une description de la situation en Algérie, qui est publiée dans le feuillet « Dialogue des peuples », où on a une prise de position d'avant-garde, hein, de demande au gouvernement français de la reconnaissance du droit à l'indépendance du peuple algérien. Donc en fait, pour Carteron, hein, l'indépendance s'impose, hein, seule issue pour permettre aux Algériens de retrouver leur dignité d'humain. Hein, et Carteron se place vraiment sur cette ligne mal, dignité d'humain qui a été mise à mal par un siècle de colonisation. Et donc, à partir de 57-58, les Sana, du fait de cet enseignement de Carteron, devient une association sur laquelle peut s'appuyer le FLN lors donc de cette seconde période de la guerre. Donc très concrètement, hein, Carlian et Mégard se retrouvent un jour de 57 dans les locaux de la Chronique sociale, rue du Plat, dans le 2e arrondissement. Donc on est toujours dans cette mouvance de catholiques sociaux, mais là on a Mégard, hein, qui est protestants. Donc ils sont réunis par Carteron pour discuter d'une remise en marche de l'ESANA. Et donc en fait, ce qui apparaît, c'est que cette association existe toujours, elle était mise en sommeil, et ce qui paraît intéressant pour Carteron, c'est de remettre sur pied cette association, Donc bien évidemment, pour y inscrire les mêmes actions d'alphabétisation, mais on va voir que ça va aller plus loin. L'idée, c'est vraiment d'offrir un cadre légal à de nouvelles actions en direction des Algériens. Alors Carteron ne vient pas seul, il est accompagné par trois personnes, trois Algériens, Kismoun, Meshiri et Mustapha Belhadj, qui sont tous trois liés, mais qui ne l'est pas en 57-58, qui sont tous trois liés au FLN, alors sans que Carlian et Mégard en aient une conscience très forte ce jour-là. Mais ce qui est intéressant, c'est que les personnes s'accordent sur la constitution d'un bureau mixte. Donc c'est une association qui refait son bureau avec donc trois personnes donc algériennes et trois français métropolitains. Alors c'est pas le troisième, n'est pas Carteron, c'est Mégard, Carlian et un autre français. Donc ils gardent les mêmes statuts et puis ils les récupèrent et ils font un appel pour compléter le nouveau conseil d'administration. Alors le sens de la refondation n'échappe pas à nos témoins. Pour Jean Carlian, donc les trois Algériens ont été envoyés par le FLN par l'entremise de Carteron et en fait choisis pour leur discrétion, puisqu'en fait trois personnes qui sont situées un petit peu en marge des actions illégales et du conflit clandestin. Alors, si on regarde les rapports de police, de toute façon, tout Algérien est suspect dans ces années-là. Donc, Belhadj, il est soupçonné par la police d'être membre du FLN. Il est arrêté en décembre 57. Comme aucune charge réelle n'est avancée, comme pour d'autres élites algériennes dans son cas, il est expulsé, interné en Algérie. Il va revenir. Kismoun, lui, est donc il est repéré pour être un des responsables du service social FLN, et Meshiri, lui, va devenir peu de temps après médecin-chef de la wilaya du sud algérien. Donc on a des personnes qui sont liées au FLN. Il faut vraiment voir que pour le FLN, qui est engagé donc dans une guerre militaire en Algérie, mais aussi dans un combat idéologique très fort en France, il faut gagner les Français à la cause de l'indépendance, donner aussi une autre image de lui-même, et en fait la collaboration du FLN, que souhaite le FLN au sein du réseau associatif, ça permet de ne pas couper les ponts entre les deux communautés, algériennes et françaises. Avec, pour le FLN, c'est Carteron qui fait le pont, lui qui connaît bien justement les milieux nationalistes algériens de Lyon, comme on le voit dans Elvire. Donc en fait, c'est intéressant parce qu'on voit bien qu'en retour, la parité franco-algérienne, c'est pour les SANA l'expression d'un refus aussi d'exercer toute forme de paternalisme auprès des Algériens de Lyon, Carteron ainsi sur la nécessité pour les Algériens de prendre eux-mêmes leur destin, c'est-à-dire qu'on ne peut pas d'un côté aller vers l'indépendance de l'Algérie et de l'autre côté décider à leur place des cours d'alphabétisation et de comment ils doivent se passer, etc. Pour Carlian, les cités algériennes, futurs médecins, profs, doivent également décider des actions à entreprendre envers leurs frères. Et donc, cette parité et le soutien du FLN aux actions entreprises par les SANA constituent un véritable gage de confiance pour les Algériens, dans la mesure où, en fait, à ce moment-là, la quasi-totalité de la population algérienne est encadrée par le FLN. C'est donc l'organisation FLN qui oriente les travailleurs algériens vers les cours de l'ISANA, de préférence à ceux organisés et financés par les pouvoirs publics, donc qui sont suspectés d'être contrôlés par la police et qui étaient suscités pour être des lieux d'embrigadement idéologique. Je passe donc sur l'action de la maison de l'Afrique du Nord, donc qui a lieu en ce moment-là. Mais ce qui est intéressant, c'est que donc à partir de 57-58, donc les activités sont toujours circonscrites au social, à l'éducatif, logement, mais surtout éducation et culture. Et donc la remise en route de l'ESANA, très concrètement, c'est un étudiant qui est un étudiant en chimie, René Bressa, donc qui habite le quartier cosmopolite de la rue Paulbert, qui est engagé déjà dans le mouvement Pax Christi en 56, qui participe à l'accueil des réfugiés hongrois. Et c'est à René Bressa que l'abbé Le Man demande de remettre sur pied des cours d'alphabétisation. Donc en fait, il remet sur pied ses cours. Donc il y en a un peu partout qui fonctionnent à Lyon et dans l'agglomération, un peu plus d'une centaine d'élèves, autant de moniteurs, il y a énormément de moniteurs, ça tourne beaucoup. Donc toujours le cours du Clos Suifon qui est très important, Et puis, donc, au cours pour adultes hommes, il faut ajouter ceux qui sont donnés aux détenus algériens, c'est-à-dire c'est plus uniquement des visites dans les prisons, mais c'est des cours hein, qui sont donnés dans les prisons. Et puis, vous avez une action d'alphabétisation qui commence à être menée à partir de 58 auprès des femmes. Donc auprès des épouses ou non, hein, et ça c'est Marguerite Carlian, donc qui va s'en occuper. Donc je passe rapidement sur toutes ces actions, ces cours pour femmes ont lieu eux directement sur le terrain, c'est-à-dire que les monitrices vont dans les bidonvilles et font quasiment du cours particulier. Hein, au départ, hein, 58-60. Hein. Il y a une modalité de mise en place de ces cours qui est très particulière. Et puis, j'allais dire, comme toute association, toute action sociale, c'est vrai que la priorité est donnée à l'alphabétisation des travailleurs algériens. Et c'est vrai que les femmes algériennes, bon, on s'en occupe beaucoup moins. C'est l'objet d'une attention moindre dans l'association. Et ça sera le cas jusqu'aux années 70. Donc, action d'alphabétisation auprès des femmes, aide aux familles, hein, toujours on continue le parrainage, beaucoup de visites aux familles algériennes, beaucoup d'aide matérielle pour les familles qui arrivent en France, des patronages pour les enfants, déplacement de gamins en colonie, en vacances, hein, des familles françaises qui emmène les enfants algériens en vacances, etc., etc. Alors, donc, beaucoup d'activités, toujours tout à fait légales, mais c'est toujours pareil, à l'intérieur de ces activités, la ligne qui sépare l'action légale sociale de l'action politique illégale, elle est, on va dire, d'une part clairement délimitée, et d'autre part un peu floue. C'est-à-dire clairement délimitée, c'est-à-dire que l'abbé Carteron veille au caractère irréprochable des militants. Il faut que l'association publiquement, ouvertement, soit irréprochable. Donc c'est René Bressat, qui est jeune étudiant à l'époque, donc qui explique lors d'un entretien à Béatrice Dubel qu'il aurait aimé aller plus loin dans cet engagement, hein, dépasser en fait la seule action sociale hein, et passer à un engagement plus politique. Et Carteron, hein, c'est Carteron qui le remet un peu sur les rails, on va dire, de la légalité hein, et qui veille à ce qu'il ne franchisse pas le pas. Et Bressat confie hein, la frustration qu'il a pu en ressentir. Cette ligne de démarcation, certains moniteurs, certains militants des SANA ne veulent pas la franchir. C'est le cas de Louis Costecharère. Louis Costecharère, qui est un militant ouvrier chrétien, hein, qui est militant à l'ACO, à l'Action catholique ouvrière, qui est très proche des milieux des nationalistes algériens, mais qui ne veut pas participer aux activités du FLN. Et donc, c'est intéressant, Louis Costecharère, et il a vraiment une activité qui se situe en lisière hein, entre le légal et l'illégal. C'est-à-dire qu'en fait, Costecharère, je précise Louis Costecharère, parce que son frère vit encore. Louis Costecharère, il accueille durablement le fils d'un militant qui est soupçonné d'être responsable du service social du FLN, donc qui est un militant qui est arrêté. Et donc Louis Costecharère se dit, oulala, cet adolescent va mal tourner. Il y a toujours cette peur des adolescents, hein, de ces jeunes garçons hein, qui sont livrés eux-mêmes parce que le père est arrêté en prison ou se cache et donc les mères débordées, donc il faut sauver ces jeunes garçons et donc il récupère donc cet adolescent, c'est vraiment son tuteur pendant de longs mois. Il s'occupe d'autres enfants algériens dont les pères sont incarcérés, donc il les emmène en vacances avec sa famille. Son action s'arrête là, ce qui ne l'empêche pas d'organiser des réunions, de discussions sur la situation en Algérie ou en France, hein, avec des militants du FLN, mais Costecharère met bien en avant « je ne souhaitais pas aller plus loin ». Je ne souhaitais pas aller plus loin. Alors, il y en a d'autres qui s'engagent vers une forme d'action plus illégale, les Carlian. Le couple Carlian confie avoir hébergé beaucoup d'Algériens, donc de manière tout à fait illégale, puisqu'ils étaient tout à fait conscients, ils savaient tout à fait qui ils hébergeaient. Ils ont hébergé un chef de Vilaya qui a été arrêté chez lui, donc les Carlian ont été arrêtés, bien évidemment. Les Mégar accueillent aussi à plusieurs reprises Tart Emzid, qui est chef de Vilaya, qui s'occupe de la liaison du FLN avec l'Allemagne. Donc en fait, on voit bien que tout ce travail social est très étroitement lié, connecté au FLN, mais avec une conscience plus ou moins aiguë des militants de cela. C'est René Bressa qui le confie, hein, et qui dit réaliser confusément plus tard que tout ce travail social était connecté avec le FLN. On n'était pas engagé au FLN, mais le FLN nous soutenait, et puis certains parmi nous, sans le dire, hein, aller un petit peu plus loin. Et moi, d'après ce que j'ai pu voir, la forme d'action majoritaire, c'était vraiment cacher des Algériens qui étaient recherchés par la police. Mais on a un autre cas de militant des SANA, c'est Jean-François Boursier, donc de la famille Boursier qui a évoqué Émilie, qui était aussi bénévole de les SANA, qui est un proche de Carteron, qui est appelé en Algérie, qui revient d'Algérie, qui est profondément traumatisé et qui, vers 59, a fait beaucoup d'actions d'alphabétisation au sein des SANA et qui, vers 59, va s'engager dans les réseaux de soutien direct aux Algériens en guerre. Donc, pour conclure, les SANA, au lendemain de la guerre, donc à la signature des accords d'Évian, elle est toujours très engagée auprès des Algériens, elle engage toute une aide d'urgence, notamment elle s'occupe beaucoup de la sortie des détenus algériens, des prisons, et elle va distribuer, donc pour montrer quand même les liens avec le FLN, elle va distribuer aux familles des détenus l'argent versé par le service social du FLN. Donc on voit bien que l'argent transite par les SANA, par des membres de les SANA, via Albert Carteron. À moyen terme, l'association va restructurer ses activités d'alphabétisation, va élargir son sein d'action à la formation professionnelle et aussi aux soins. On a tout un centre médico-social qui va être fondé par Méga en plein cœur de la Guillotière. Donc l'association demeure paritaire. Alors elle demeure paritaire, mais pas très longtemps, hein, puisque en fait avec l'indépendance de l'Algérie, il faut revoir les statuts de l'association, puisque un conseil d'administration, vous devez avoir uniquement des Français, donc les Algériens ne sont plus Français. Donc en fait le paritarisme s'arrête. Paritarisme qui était vraiment suspect aux yeux des pouvoirs publics. Hein. Moi, j'ai une note des RG de 63, du 14 octobre 63, qui dit que cette association doit être surveillée de manière active. Alors, toujours eu égard à la composition de son CA, la personnalité de certains de ses membres, eu égard encore à son attitude passée. Donc, la SANA met fin à ce paritarisme, en accord avec les membres algériens. En fait, on passe à une autre histoire, puisqu'on est une association qui s'engage dans des actions d'envergure, toujours en matière donc d'aide à la population immigrée, au logement, où elle demande une aide publique, et comme elle redemande des subventions, du coup elle se met en règle vis-à-vis de la loi, et forme un bureau complètement français. Et donc c'est intéressant, j'ai suivi un petit peu les SANA jusqu'à la fin des années 60, et on a vraiment une normalisation des rapports de les SANA, enfin, qui devient ACFAL, avec les pouvoirs publics, et notamment avec les préfectures, à partir de 65-67. Pour autant, je n'ai pas trouvé trace dans les archives de subventions des pouvoirs publics jusqu'au début des années 70 à l'association. Donc on voit qu'on est toujours quand même une association suspecte. Voilà. Donc pareil, des questions factuelles avant peut-être d'ouvrir plus largement. C'est de la soierie, donc oui. Pour moi, c'était pas des passementiers, mais c'est Carlian, donc c'était rue d'Algérie. Donc c'est... Oui, non, mais c'est une famille, de toute façon c'est Carlian et fils. En fait, c'est une grande famille, catholique lyonnaise. Le père de Jean Carlion a fondé la paroisse Saint-Alban, à Montplaisir, hein, au début du XXe siècle. Et donc, c'est une famille de soyeux. Donc, oui, c'est même une famille.
Oui, il y a le livre « Je viens d'emprunter la gauche, une crime ».
Oui.
Il y a des sorties de son
abjectif. Oui, oui, tout à fait.
Il y a un clivage très fort à Lyon, hein. Par exemple, même ceux qui au départ étaient orientés vers la gauche, Victorien Ours, du lycée du Parc, vont se mettre à dernier complètement pendant l'OAS, au point 2, je crois qu'il est soutenu
la chronique sociale, c'est vraiment le, on va dire, le noyau dur, enfin le, cette nébuleuse, nébuleuse dans le sens vraiment mouvement de pensée à Lyon, qui est très très importante pour comprendre ses engagements. C'est-à-dire que moi, quand j'ai travaillé sur les SANA, je revenais constamment sur la chronique sociale. C'est-à-dire que les personnes qui intervenaient à l'ESANA, par ailleurs, on les retrouvait à la chronique sociale. C'est vraiment un foyer de pensée, hein, de pensée, et un gros foyer de formation de militants, en fait, de alors travailleurs sociaux, mais formation militantiste, parce qu'il y avait énormément de conférences. Il y avait Carteron allait parler, bien évidemment, là-bas. Et vraiment, cette action de formation. Alors, à la question algérienne, donc, il y a le fonds de la chronique sociale est déposé aux archives municipales de Lyon. Donc, si ces questions vous intéressent, je vous conseille d'aller voir, parce qu'il est vraiment, il est très, très dense. Et vous avez notamment toutes les publications de la chronique sociale. Et vous voyez que les publications à l'époque de la chronique sociale sont très engagées. Hein. C'est vraiment... Oui, tout à fait. Voilà, donc en fait, c'est tout. Dans 15 jours, Béatrice Dubel va vous éclairer un peu plus, justement, resituer Jean Lacroix, etc., dans tous ces réseaux. Dans tous ces réseaux lyonnais, mais c'est vrai que il y a le gros fond de la chronique sociale, et puis les SANA, donc les archives de les SANA maintenant sont déposées aussi aux archives municipales. Ce qu'on aimerait faire suite à l'exposition, c'est vraiment toute la question de ces engagements pendant la guerre d'Algérie, qu'on commence à avoir des fonds d'archives un peu constitués et consultables, hein, ça serait vraiment intéressant pour continuer à en faire l'histoire, parce que pour l'instant ça reste encore très, très éclaté, hein. L'ESANA, je me trompe tout le temps parce que avec le service social, c'est études sociales, service d'accueil nord-africain. Donc qui devient ACFAL, association de coopération franco-algérienne. Et donc en fait, on a l'équivalent, moi j'ai fait un petit peu des recherches, on a l'équivalent à Grenoble. Le MAN part à Grenoble à un moment donné, alors c'est très flou hein, dans les témoignages, monter ce même type d'association, de toute façon des associations d'alphabétisation, il y en avait partout, mais avec cet esprit, hein, il n'y en avait pas non plus partout, et il semble qu'à Grenoble il y ait un foyer, donc pareil, il y aurait des recherches à faire sur Grenoble, hein, et sur ses engagements à Grenoble.
Est-ce que vous savez les principales agglomérations?
En France ? Tu réponds ?
Tu veux, vas-y. Oui, alors, j'hésitais quatre grandes agglomérations. Je dirais la région parisienne qui est très complexe. Vous avez Lille, Tourcoing, Roubaix. Après, vous avez Lyon, Grenoble, Marseille, où là, on commence à avoir des gens qui travaillent sur ces questions-là. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est qu'en règle générale, il y a une association entre guillemets officielle, c'est-à-dire qu'une association qui est soutenue par la préfecture. Donc à Lyon, c'est la Maison de l'Afrique du Nord. À Marseille, vous en avez une qui est à peu près équivalente. Et à Lille, je sais qu'il y a une autre qui est à peu près équivalente. Après, les associations, elles sont très liées à des personnalités locales. Donc après, on voit des choses se développer, mais différemment. Mais quand même, on retrouve toujours le principe d'alphabétisation, le principe d'aide au logement, etc. Après, ça dépend des personnalités locales. À Lyon, vous avez par exemple le foyer Notre-Dame des Sans-Abri, qui n'est pas une association spécialisée sur les Algériens, mais qui, de fait, va prendre en charge beaucoup cette question-là. Mais ce n'est pas une entrée directement par la prise en charge des Algériens, par exemple. Voilà.
Vous avez dans l'ouvrage qui a été dirigé par Raphaël Branche et Sylvie Thénault sur la France en guerre, hein, donc qui a été publié à la collection Autrement. Vous avez un article de Gilles Emprin justement sur cette question pour Grenoble. Et on commence à voir voilà quels sont les, je parle pas des réseaux, hein, mais de ces nébuleuses de soutien aux Algériens un peu sous toutes leurs formes. Mais c'est vrai que c'est ce qu'on disait la semaine dernière, hein, la question de la guerre d'Algérie sur le terrain métropolitain est une question qui est très neuve en histoire. Et donc très souvent, on a d'abord une histoire un peu générale, un peu par le haut, et ensuite on commence à avoir des travaux plus par le bas sur le terrain, et qui généralement sont faits par des étudiants hein, en master et en thèse. Mais il faut que ces travaux aboutissent. Mais c'est vrai que sur cette question-là, moi j'ai rien vu, enfin sur l'alphabétisation, il y a des travaux sur les politiques publiques d'alphabétisation, autour de 58, mais il n'y a pas de travaux sur les actions locales. Donc, enfin, publiés, j'entends, hein, c'est toujours pareil après. Et justement, nous, ce qui nous intéressait dans Récit d'engagement, c'est est-ce que ces solidarités franco-algériennes, est-ce qu'elles sont spécifiquement lyonnaises, enfin celles qu'on a pu faire émerger, la question de la spécificité lyonnaise se pose, hein, bien évidemment. Mais pour l'instant, on n'a pas encore suffisamment d'éléments de comparaison, il faut qu'il y ait d'autres travaux similaires qui se passent ailleurs pour qu'on puisse trancher sur cette question de la spécificité. Pour l'instant, on n'en sait rien. Mais il y a quand même une spécificité qui est liée à la forte présence catholique, à la présence de la chronique sociale, etc. Ça, c'est incontestablement lyonnais.
Est-ce qu'il n'y a pas un
Alors, la continuité avec le. Alors, la continuité avec la résistance, c'est évident. C'est évident. Pas pour tout le monde. Alors, pour certains, oui. Alors là, la semaine prochaine, Arthur Grosjean, qui va parler des avocats, lui, il vous montre une filiation avec la résistance, bien évidemment, hein, qui est très nette. Alors, les personnes qui s'engageaient auprès des Algériens, beaucoup de ces personnes mettent en avant leur lien avec la résistance, leurs liens familiaux. Ah ben, mon père était dans la résistance, ma famille de toute façon était baignée dans ce milieu, donc on n'est pas loin de la Seconde Guerre mondiale, hein, en 54-58. Donc effectivement, ils mettent en avant cette filiation. Alors le contraire n'est pas vrai, c'est-à-dire que tous les résistants ne se sont pas engagés auprès des Algériens pendant la guerre d'Algérie, loin de là, hein, un panel très large, mais parmi ces personnes qui sont engagées dans ces solidarités franco-algériennes, effectivement, la filiation résistante est... Alors, après, c'est pareil, hein, c'est une question de mémoire et comment les témoins racontent leur histoire 50 ans après. C'est vrai que 50 ans après, c'est aussi facile de mettre en avant ce passé de résistant. Avec des fois des raccourcis qui peuvent être faits, c'est difficile, hein, parce que quand vous avez 70-80 ans, parler de vos faits de résistance quand vous aviez 12-13 ans, bon, c'est compliqué. C'est très compliqué parce que c'est très volontiers mis en avant cette filiation, mais très concrètement, on ne sait pas toujours exactement où elle est cette filiation, si ce n'est, bah oui, ma famille était résistante. Bien évidemment.
Mais c'est ça parce que, comme c'est juste après la guerre, il y a encore les réseaux sont encore constitués, toutes les caches, toutes les plans, tous les trucs qui servaient pendant la résistance pouvaient peut-être resservir au moment de la guerre d'Algérie.
Alors là-dessus, les témoins n'en parlent pas du tout de l'aspect concret, si vous voulez, non. C'est-à-dire qu'on va mettre en avant la filiation résistante, c'est Beuglin notamment, hein, mon père était résistant et moi-même je me suis engagée à 14 ans, mais à aucun moment il dit qu'il a utilisé. Alors, il peut dire hein, qu'il utilise...
C'est quand même une sorte de transmission de savoir-faire quand même.
Transmission de savoir-faire, mais qui n'est pas dans les lieux, dans le... Mais effectivement, comment on cache des gens, ouais. Comment on cache des gens, la discrétion, etc.
Ouais.
Tout à fait. Sur la question de la cache, bah, Émilie, tu pourras en parler, mais c'est vrai que cacher les Algériens, mais aussi cacher les papiers, alors les personnes qui sont engagées, bon, à chaque fois disent qu'ils ne cachaient pas d'armes, hein, mais qui cachaient des Algériens qui pouvaient être armés, bon, ça revenait plus ou moins le même, cacher des Algériens, cacher des papiers, puisque les Algériens étaient constamment contrôlés. Dans les cités, dans les foyers, ils ne pouvaient rien laisser dans leurs casiers. Les casiers étaient systématiquement ouverts, il n'y avait aucune vie privée. Donc effectivement, le rôle de cache, par exemple, était très important. Et on peut faire des parallèles avec la résistance. Ben oui, c'était... Mais Beuglin, on parle dans les savoir-faire, mais c'est le seul que j'ai entendu qui parle très concrètement de voilà, de ces transmissions de savoir-faire, quoi.
Mais, comme vous dites, sur la licence, il y a certaines ambiguïtés parce que au début, Vichy a ouvertement essayé d'utiliser le christianisme social autour d'idées de communauté. Et au début, il y a tout le monde âgé au début, alors que les milieux, pacifistes, communistes, etc. Mais par exemple, le Vernou, le Bray,
oui. Après, c'est toute la question de la position aussi des catholiques, mais la position surtout de l'Église pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est vrai que c'est pas un débat d'historien, mais la position du cardinal Gérier pendant la guerre d'Algérie, certains peuvent y voir, bah oui, c'est l'Église qui se rachète un peu de son passé. On va dire limite pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est vraiment cette. Et c'est perçu comme ça. Moi, j'ai pu l'entendre tout à fait. Mais l'Église n'est pas les catholiques. Oui, pour la guerre. Oui, tout à fait, ouais.
Mais alors, il y avait des personnalités importantes comme Jacques Chevalier, qui était aussi en correspondance avec Carillon, qui est devenu deux fois secrétaire d'État de Pétain. Mais. Pas seulement d'ailleurs des critiques qui ont compromis, c'est même des. Par exemple, le philosophe Bergson est compromis aussi, parce qu'il était allié intime avec Jacques Chevalier, qui a fait son éloge quand Bergson est mort. Donc, des compromis.
Tout à fait, ouais, bien sûr.
On parle de la civilisation.
Alors, c'est une très bonne question et puis je continue un petit peu à travailler là-dessus. Alors, les moniteurs de l'ESANA n'étaient pas des Abbé Lemann et Carteron, donc ne parlaient que le français. Donc, si vous voulez, l'action d'alphabétisation, enfin, tout était en français. Mais plus on avance dans la période, plus l'ESANA, on va dire, se professionnalise et essaie de professionnaliser un peu ses intervenants. Et donc, les formes, alors, pas les former aux langues des Algériens, mais quand même, essayer de les sensibiliser à la question des intonations. On a des manuels, moi, j'ai mis la main un petit peu sur des manuels. En fait, ce que j'ai vu surtout, c'est comment on peut travailler avec la phonétique. C'est une question que j'ai posée à Jean Carlian, mais comment vous faisiez très concrètement pour travailler, et c'est une question sur laquelle il a un peu séché, vraiment. Moi, c'est une question qui m'intrigue, et notamment pour moi, je travaille particulièrement sur l'alphabétisation des femmes qui se passe différemment, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de manuel pour les hommes, il y a un manuel. Ali rentre du travail, Ali va à l'usine, Ali retrouve ses amis au café, etc., etc. Et puis pour les femmes, il n'y a rien, elles ne sont pas du tout concernées par le manuel. Et donc les militantes de l'ESANA commencent à faire des manuels, on va dire, reliés à la main, où elles inscrivent des conversations courantes. S'il vous plaît madame, je voudrais du pain, etc., etc., puisqu'elles décrivent en fait l'impossibilité pour ces femmes de se débrouiller toutes seules avec le problème qui se pose à partir de 58 où leurs maris sont pas là, donc personne parle français si ce n'est les enfants qui eux commencent à être scolarisés, mais on sait très peu de choses sur ces enfants scolarisés. Vous voyez, on navigue un peu là, on sait très très peu de choses en fait sur ces questions. Donc sur la méthodologie, moi ce que j'ai pu entendre pour l'action d'alphabétisation auprès des femmes, on se débrouille, on essaie de se faire comprendre par de la conversation courante, un livre, enfin voilà, c'est vraiment, on leur amène du pain, on leur amène, voilà, on met la table et puis on explique, voilà, l'assiette, etc. Donc ça marche comme ça, avec petit à petit quand même donc plus de professionnalisation, mais ça c'est quand même plutôt les années 60, où en fait les SANA récupèrent ce que font des associations, d'autres associations, et puis aussi à partir des années 60, le ministère de l'Éducation nationale, hein, qui va commencer à publier des manuels et réfléchir un peu plus à la question de l'alphabétisation. Mais ils bricolent vraiment. Hein. Et moi, la question, c'était vraiment comment tous ces moniteurs qui sont sans cesse recrutés, ils changent constamment. Hein. Il y a une centaine de moniteurs à l'ESANA. Comment ils font avec des classes de 10, 20, 30 travailleurs algériens qui connaissent très mal le français? Hein. Est-ce qu'ils l'écrivent? Est-ce que c'est plus de la conversation orale? Donc, moi, je continue l'enquête, hein, pour voir un petit peu comment ça se passe au niveau méthodologie. Mais j'ai peu d'éléments là-dessus. J'ai très peu d'éléments, si ce n'est, voilà, manuel. Mais j'ai des entretiens à réaliser avec des anciens militants, moniteurs, monitrices, donc qui vont, j'espère, m'éclairer un peu plus. Mais c'est surtout de la conversation, en fait. Hein. C'est pas le... C'est, alors, savoir écrire, effectivement, rédiger un minimum, compléter les papiers, mais c'est surtout la conversation. Conversation. Pour les travailleurs algériens, voilà, lire le règlement ou le contrat. Je pense que c'est vraiment sur des choses très, très concrètes, hein, que l'alphabétisation se faisait. Pour les femmes, c'est vraiment le français courant, faire ses courses, aller chercher ses enfants à l'école, qu'est-ce que je dis à l'institutrice, etc., etc. Et c'est énormément, alors moi je travaille un petit peu là-dessus, j'essaie de creuser un peu là-dessus, c'est beaucoup d'éducation, alors limitation des naissances, etc. Donc c'est le grand leitmotiv de ces militantes auprès des Algériennes, hein, comment limiter les naissances. Moi, c'est ce que j'entends tout le temps. Donc l'alphabétisation se fait autour de ça aussi, quoi. Mais c'est vrai que j'ai pas beaucoup de réponses, parce que c'est vraiment un terrain très neuf. Il y a très peu de choses sur l'alphabétisation des adultes. Il y a très peu de choses sur enfin, d'un point de vue très, on va dire, concret, sur le terrain, et très peu de choses sur la scolarisation des enfants, puisque l'apprentissage du français est bien évidemment beaucoup passé par les enfants. Mais encore faut-il que ces enfants soient bien scolarisés, et donc on commence à travailler notamment sur les liens entre l'école et les enfants de migrants dans ces bidonvilles, Buère, donc on travaille sur le bidonville du Chaba aussi, et c'est pas évident, hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup de sources, hein, si ce n'est des enquêtes orales. Tout à fait. Et tout à fait. Et donc, vous avez, en fait, dans les années 50, 60, ces politiques d'alphabétisation qui se mettent en place, et on voit bien à partir de 70, des politiques de formation professionnelle ou de pré-formation professionnelle. Donc, en fait, c'est ça, quoi. C'est comment je fais quand je suis à la chaîne pour lire la consigne, quoi. Tout à fait. Mais ça, j'allais dire, si on reprend l'histoire de l'enseignement au XIXe siècle, hein, l'école primaire, c'est former les travailleurs. C'est former les travailleurs aux nouvelles consignes de l'industrialisation qui sont en constant renouvellement, recomposition. Donc il faut former toujours les travailleurs à ça. Donc l'alphabétisation... Donc le nouveau terrain de l'alphabétisation, au XIXe siècle, c'est l'école primaire républicaine. Au XXe siècle, c'est, à mon avis, ce cours d'alphabétisation dans les périphéries urbaines dans les années 50-60. Donc il y a tout un quelque chose à faire sur la formation professionnelle du livre. Alors là, il n'y a rien.
C'est toi qui sais. C'est moi qui sais. C'est les Boers, il y a Gerland. Pour l'époque qui nous... j'ai oublié. Les Boers, Gerland. Après, il y a Tonkin, mais oui, mais c'est plutôt le bidonville. Enfin, c'est de l'insalubre. Sinon, vous avez l'insalubre qui est rue Paulbert, Croix-Rousse, ce qu'on appelle les bidonvilles verticaux. Gerland, Croix-Rousse, bon, le troisième, Paulbert, jusqu'à la Guillotière. Et après, Villeurbanne,
les Buères, mais après, les Buères, si vous en avez, dans le prolongement des Buères.
Gerland. Après. Ouais, c'est ça.
Moi, j'en ai vu localisés à Villeurbanne, où il y avait une localisation. Mais qui voilà, qui
sont pas. Il faut quand même comprendre qu'à Lyon, on a, à part le bidonville de Gerland qui est un gros, enfin, qui est un grand milieu, on n'a pas l'équivalent de ce qu'on peut voir à Paris sur Nanterre ou des choses comme ça. À Lyon, le gros problème de l'agglomération lyonnaise, ce sont ce qu'on appelle les bidonvilles verticaux et non pas les bidonvilles type les boueurs qui sont sur des baraques. Donc tout le problème de l'agglomération lyonnaise, c'est de résorber au maximum ces bidonvilles verticaux-là. Et donc, en fait, l'agglomération lyonnaise, contrairement à la région parisienne, résorbe l'ensemble de ses bidonvilles à la fin des années 60. Il n'y a plus de bidonvilles au sens strict dans les années 60. Mais il y a encore ce qu'on appelle les bidonvilles verticaux.
Alors, le bidonville de Gerland, on voit des photos... Comment on se situe justement et on essaye de... alors, pour moi, mais je me trompe peut-être, parce qu'en fait, moi, j'ai travaillé un peu sur ce bidonville dans les années 30, des années 30 aux années 50, parce qu'il y a, ça a toujours été un lieu d'accueil des populations italiennes. Donc, c'est... Vous avez... sud... Enfin, oui... non, pas sud, ouest. Donc, plus vers le Rhône, sur les berges du Rhône, où vous avez l'avenue Jean Jaurès, c'est entre Jean Jaurès et le Rhône. Donc entre, j'allais dire, il y a les abattoirs et ensuite quand vous revenez dans le centre, voilà, c'est un peu ce secteur-là. C'est l'ancienne, c'est, j'allais dire, c'est l'ancien site de l'ENS actuel, hein, en gros. Ouais. C'est là. Hein. Les jardins. Les cités jardins de Gerland, donc celles qui sont sur l'avenue de Bourg, hein, on est d'accord?
Oui, oui, oui.
Bah, ça, je sais pas. C'est année 30, ça. C'est année 30, non?
Ouais.
24. Ouais.
Oui, mais quand est-ce que
les en fait c'est moi je vois pour le ce que je connais de Gerland, alors moi je connais mieux Gerland pour les années 30 et puis j'ai vu jusqu'à l'éradication du bidonville de Gerland, c'est quoi, c'est fin des années 50 Gerland?
Non, début des années 60.
Début des années 60. De ce que j'ai vu, on a plusieurs il y a un livre qui a été fait là-dessus qui s'appelle Baraque, qui est très très beau, qui a un très très riche recueil photographique où une association catholique en fait venait en aide à ces populations italiennes pour beaucoup et donc prenait des photos. Et en fait, on a cet habitat, ce bidonville qui est très dispersé dans ce secteur de Gerland, donc qui va vers le Rhône. J'ai vu dans les archives des réclamations de directeurs d'école qui s'inquiètent dans les années 50 de l'arrivée massive de populations algériennes, puisque déjà dans des cités de transit, puisqu'on veut reloger justement les populations algériennes, donc déloger des bidonvilles, on veut les reloger et on va construire une cité à Gerland. Et donc bien évidemment, le directeur d'école s'inquiète, mais qu'est-ce qu'on va faire de cette population, quand est-ce qu'elle va arriver, qu'est-ce qu'on va en faire, etc. etc. Donc moi j'ai vu ça à travers la question scolaire. Gerland, il n'y a pas d'histoire de Gerland qui a été faite. On a une histoire industrielle de Gerland. À ma connaissance, il n'y a pas d'histoire des cités jardins de Gerland. Il y a plein de travaux qui ont été faits sur les États-Unis, mais pas sur
les États-Unis,
sur
oui. Avec la Berthet, mais Gerland.
Et il y a eu des choses qui ont été faites au moment justement de la construction d'écoles normales supérieures, hein, autour de l'école normale, qu'est-ce qu'il y avait avant. Mais du coup, j'ai perdu le fil de votre question. Mais oui, les cités jardins, c'est l'entre-deux-guerres, hein, pour moi. Donc, il y avait cités jardins, il y avait des maisons ouvrières dans ce Gerland, et puis il y avait les baraquements. Et qui sont supprimés donc
oui moi, début des années 60. Mais oui, je connais très mal Gerland, je sais pas du tout quelles ont été les politiques de relogement là, parce que si je sais pas comment elles ont été amenées à être dans ces cités jardins là, donc je veux pas dire de bêtises, j'ai pas travaillé du tout sur Gerland.
Mais les témoins donc évoquent bien le bidonville de Gerland dans les années 50. Mais c'est en fait c'est très difficile. Alors on peut localiser globalement, on dit bah là il y avait voilà de l'habitat, des
baraquements. Ça dépend des archives qu'on a encore en fait et qui nous permettent ou non de reconstituer les relogements qui sont effectués parmi ces populations là. Parce qu'on peut regarder et voir qu'effectivement il y a un certain nombre de populations qui sont là d'origine algérienne en tout cas on suppose, mais après il faut savoir comment elles ont été relogées, comment elles ont été placées là. Et parfois on a des archives qui nous permettent de le faire et parfois non. Et pour Gerland, je n'ai pas par exemple. J'ai pour les Bouères, j'ai pour Faisin, par exemple, mais j'ai un nom.
Mais il y a un flou sur les bidonvilles, parce que quand on demande à des témoins c'était quel bidonville, bon, tout le monde, c'était le Chabat. Maintenant, dès qu'il y a un bidonville, c'est le Chabat. Donc, c'est une bidonville d'Azouzbegag à la Fessine. Et même dans les archives... et dans le fonds photographique, il y a un très très beau fonds photographique à la Bibliothèque municipale de Lyon, le fonds Marcel Vallet. Et en fait, vous avez plein de photos de bidonville et c'est toujours indiqué bidonville du Chabat. Et ça, c'est pas le bidonville du Chabat. Donc vous voyez, c'est un peu... mais là, pour l'histoire des bidonvilles, il faut travailler sur sur les archives orales, hein, parce qu'il n'y a pas de... Mais on se casse un peu la tête là-dessus. Hein. Ça fait des années qu'on essaie de faire travailler là-dessus. C'est un peu...